Dans un numéro datant de 2008, la revue Liberté demandait à plusieurs auteurs québécois de réfléchir sur la question de l'héritage. Dans un texte qui s'intitule « Trahir la race, portrait de l'intellectuel québécois en Judas », Catherine Mavrikakis nous invitait à déformer ou encore à malmener, à trahir ou à traduire en d'autres termes, souvent très peu fidèles, ce qui nous a été confié. C'est dans cet esprit que je me propose de relire l'œuvre de Bello, en le trahissant et en le malmenant gentiment. Dans ce colloque dédié à l'héritage du grand essayiste, il m'apparaissait intriguant d'interroger l'idée de l'intellectuel qui se trouve disséminée à travers ses textes, mais d'interroger cette idée à l'aune de ses manques, de ses silences, de ses aveuglements. En tant qu'étudiante, j'ai fréquenté Bello. J'y ai trouvé une écriture, des questions, un regard qui m'interpellait chaque fois, mais je ne pouvais m'empêcher d'y remarquer une absence criante en particulier, l'absence de femmes qui écrivent, qui pensent, qui énoncent des théories. Dans « Les écrivains québécois sont-ils des intellectuels? » un texte de 1983. André Bello formule le souhait que, je cite, « L'écrivain se reconnaisse enfin comme un intellectuel à part entière, un écrivain qui ose questionner les formes, réfléchir sur le langage, jouer et déjouer les codes, bref, abolir la distinction entre création et critique. » Dans toute son œuvre se dessine en creux la figure de cet intellectuel, laquelle se pense implicitement au masculin. Même si Bello s'est défendu de reconduire une exclusion basée sur la différence sexuelle, sa réflexion sur la vie intellectuelle québécoise et les débats qui l'animent ne fait généralement que très peu de place aux intervenantes féminines, à leur point de vue sur la culture et aux conditions sociales qu'ils déterminent. Dans l'article « Liberté, la porte est ouverte », Bello explique que l'expression « les gars » souvent utilisé pour désigner l'équipe du comité de rédaction de Liberté, je cite, « cherche à indiquer non le sexe, mais un certain type de relations humaines. » Or, il me semble que cette dénomination, « les gars », constituerait plutôt un point nodal, un indice permettant de saisir les rapports de force qui structurent l'ordre des discours et des représentations à une certaine époque. Je n'ai pas l'intention de mener ici une réflexion exhaustive sur la relative absence de femmes à Liberté, réflexion qui reste à faire toutefois, comme l'a montré Rachel Nadon en conclusion de son mémoire de maîtrise consacré à la revue, ainsi que Marie-Andrée Bergeron dans un article publié l'hiver dernier dans les pages mêmes de Liberté. Encore aujourd'hui, cela représente parfois un fardeau pour ceux et celles qui écrivent dans la revue de se reconnaître beaucoup trop de pères et bien peu de mères. Je n'ai pas l'intention non plus de faire le procès de Bello ni de son époque. Je voudrais montrer dans un premier temps qu'on peut reconnaître dans certains de ses textes et dans certains éditoriaux collectifs de Liberté une minorisation des intellectuels le qui correspond au statut incertain de celle-ci dans le discours social québécois. Mais je souhaite aussi montrer dans un second temps que la figure de l'intellectuel telle que Bello la conçoit et telle qu'il l'incarne peut contribuer à construire une pratique intellectuelle féministe. Je l'ai dit, c'est une chose frappante quand on lit Bello. Très peu d'auteurs femmes s'insèrent dans son horizon culturel et quand elles y apparaissent, Bello ne démontre que très peu d'intérêt pour leur place dans le champ littéraire ou pour la façon dont elles manient dans les textes les représentations des femmes ou du féminin qui circulent dans l'espace social. Pour quelqu'un qui cherche à repérer les cristallisations du discours social, il fait preuve d'une surdité étonnante. On ne peut pas dire qu'il a surpris ces voix-là. Je vais me limiter à deux exemples qui me semblent éclairants. D'abord, dans « Code social et code littéraire » dans le roman québécois, un texte de 1983, Bello compare le statut des références littéraires dans les textes de Jean Simard et de Monique Bosco. Simard représente la façon dont le roman québécois intègre le code littéraire comme un ornement, un surplus, en disséminant un peu partout des références littéraires qui n'ont pas vraiment lien avec la progression du récit, et Bosco est supposé représenter plutôt la façon dont le roman français, lui, intègre ce code de manière plus organique, en donnant aux références littéraires une fonction dans le récit. Bello remarque que les références sont moins nombreuses dans « Un amour maladroit », le roman de Bosco, mais sont liées à des moments marquants de la vie intellectuelle du personnage. Pourtant, certains éléments qui me semblent déterminants sont ignorés par Bello. La narratrice est une Française juive qui, dans la vingtaine, qui essaie de refaire sa vie à Montréal après avoir subi le traumatisme de l'occupation pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le personnage dit détester son corps, aurait préféré être un garçon et se retrouve à écrire pour les pages féminines d'un journal que ses collègues considèrent comme de la bouillie pour les chats. Bello ne s'intéresse pas à la négativité qui se dégage du personnage créé par Bosco. Cependant, cette négativité est cruciale pour comprendre son rapport au code littéraire. Le fait que la narratrice soit femme et juive la confine à l'exclusion. Celle-ci manie les références littéraires comme un héritage précieux auquel elle n'a peut-être pas droit. Elle affirme « Je hais ma condition de femme désertée ». En fait, c'est la littérature qui déserte le personnage. Les références littéraires disparaissent progressivement au fil du récit, lequel se termine sur l'abandon du parcours intellectuel et le rejet du monde par la narratrice. Bello cherche à connaître, je cite, « les conditions formelles d'intégration de toute littérature et de toute culture au sein du texte romanesque québécois », et par contraste, il repère chez Bosco un rapport moins honteux envers la culture qui serait propre aux écrivains français. Au contraire, toute la structure du roman de Bosco laisse transparaître un empêchement du sujet à participer à la sphère culturelle qu'elle admire et qu'on voit de l'extérieur. Second exemple. Dans le romancier fictif, un des rares personnages d'écrivaine abordés par Bello est celui de Gabrielle Lubin dans « Douze amères » de Claire Martin. Ce personnage est qualifié de « fausse romancière » par Bello à cause de l'absence de références vraisemblables au monde littéraire, à l'activité d'écriture ou au roman produit par le personnage. Il écrit « Gabrielle a la détermination et la passion qui n'admettent aucun obstacle. Elle aurait pu être comédienne et l'éditeur, le directeur de la troupe. Elle aurait pu, à la rigueur, faire de la décoration d'intérieur. » Bello interprète cette absence de référent comme un signe du nouveau statut de l'écrivain dans la société québécoise qui se considérait désormais comme accepté, protégé des aléas de la vie sociale et politique. L'écrivain se serait professionnalisé, son statut se serait stabilisé. À mon avis, en tirant cette conclusion, Bello passe à côté d'une dimension importante du roman. Gabrielle Lubin, la romancière de Claire Martin, est décrite à travers les yeux de son éditeur qui tient le rôle de narrateur. Dès le début du récit, elle est présentée comme une créature qui échappera à son créateur. Lubin fera son entrée dans le monde littéraire grâce à une photographie où elle ne se ressemble pas, image léchée qui représente la Gabrielle que son éditeur, je cite, « a voulu exhiber ». La représentation de la romancière dans le récit de Martin se fait sur le même mode fantasmatique. Tout au long du roman, l'écrivaine et le monde littéraire dans lequel elle évolue apparaissent lointains et irréels, bizarrement glamourisés, comme si le travail de l'écrivaine ne pouvait être décrit que de manière allusive. Se peut-il qu'en 1960, date de parution du roman de Martin, il y a un certain malaise à décrire la matérialité du travail de la femme écrivain. Se peut-il que la romancière ne puisse être en même temps une femme réelle, un personnage crédible ancré dans un contexte vraisemblable? Bello s'intéresse au domaine du dissible et du représentable, et il me semble qu'ici, il ne suffit pas d'affirmer que le métier d'écrivaine de Gabrielle Lubin tient une place négligeable dans le roman, mais qu'il faut se demander pourquoi. Pourquoi le travail de l'écrivaine apparaît-il aussi difficile à montrer? Je ne vais pas m'avancer plus avant dans ces analyses, puisqu'en soi, leur présence serait anecdotique si elles n'avaient pas un statut exemplaire dans l'œuvre de Bello. Ce qu'il y a d'exemplaire ici, c'est le refus de lire dans les textes la sémiotisation de la précarité de la pratique littéraire des femmes, ou du moins de leur manque de crédibilité et de légitimité au sein de la sphère littéraire. Et ce refus, à mon avis, conduit Bello à passer à côté des œuvres, de ces œuvres-là en tout cas. Évidemment, cette incapacité à reconnaître dans le texte l'inscription des conditions d'écriture et de pensée des femmes est assez commune dans la critique, et peut-être qu'en soi, ce n'est pas exactement un objet d'intérêt. Ce phénomène devient soudain plus significatif quand on le met en relation avec les textes collectifs du Comité éditorial de Liberté, textes collectifs co-signés par Bello, qui témoignent de l'incompatibilité entre les femmes et la vie intellectuelle telle qu'elle est conçue et vécue dans la revue. Pour explorer cette voie, je me suis intéressée au personnage de Nadine, qui apparaît dans la chronique « À suivre » en 1976. Dans un numéro qui, curieusement, succède à celui sur « Les femmes et l'écriture », qui sont en fait les actes de la rencontre internationale des écrivains, et où Jean-Guy Pilon précise dans une note liminaire que l'équipe de Liberté s'y fit discrète pour laisser la parole aux femmes qui, je cite, « la prirent à qui mieux mieux et en firent un vivant usage ». Revenons à Nadine. Nadine est un personnage fictif qui co-signe parfois les chroniques collectives, qui est à la fois muse, amante et tête de turc. Elle apparaît dans un court texte de Bello et deviendra une sorte de blague privée qui se poursuivra sur une vingtaine de numéros pendant plus de 10 ans, jusqu'après la mort de Bello. Elle apparaît donc, je disais, dans un petit poème ludique de Bello que je vais lire dans l'intégralité pour le plaisir de la chose. Nadine aimait les gens et allait à Farnham. Qui l'eût vu, l'eût cru, loustique et ludique, l'eût su cru, j'aimais la chair fraîche. Vrou, brou, c'était terrible. Ô Nadine, ma petite flexion fléchie, mon doux morphème accrocheur, ma désinence tout usage, viens voir un peu que je te décline du plus ouvert au plus fermé. Nadine, Colin, Anaïsnin, Lénine, Lachine, Colin Debine, Stepine, Bébine, Staline, Anacine, Olderline, Poutine. C'est ainsi que Nadine, habilement convoquée, s'amena toute ouverte et que sème de mon monème pour une transgression superbe dans une coupure infinie, je la paradigmaticulisais. On peut reconstruire le personnage de Nadine en traquant ses apparitions dispersées au fil des numéros. On apprend ainsi que Nadine enseigne à l'école maternelle, mais enseigne aussi le français et l'histoire, même si elle pleure parce qu'elle ne comprend pas les poèmes compliqués. Au moins, je cite, elle fait créer des poèmes à Bello. Elle écoute Femmes d'aujourd'hui où parfois on s'occupe d'art, elle tricote des trucs pour financer le stade olympique et répond poliment au courrier. Je cite un autre extrait de À suivre, signé par François Hébert. Son prénom vient de l'espagnol nada, rien, et du suffixe in. Son nom voudrait dire rien dans, une sorte de contenant sans contenu. Ses détracteurs la surnomment la cruche. Son nom aurait d'ailleurs inspiré l'expression il n'y a rien là. Parmi ses faits saillants, on trouve celui de comploter pour déposer 2 millions de noms dans les boîtes de scrutin du référendum de 1980. Nadine est le faire-valoir de liberté, comme l'écrit très honnêtement Jacques Folcribas dans le numéro Hommage à Bello en 1987. Je cite Folcribas. Je devenais intéressante pour ces messieurs et de plus j'étais une femme. Cela manquait à liberté. Ils virent tout de suite l'immense parti qu'ils pourraient tirer de moi. Chaque fois qu'ils avaient peur de leur ombre, ils s'empressaient de signer cela, Nadine, les fins-fins. Nadine est la femme de service à liberté, une mignonne créature qui rapporte tout sans discernement. On ne sait pas si on peut lui faire confiance car elle pose des questions stupides et formule des théorèmes bidons. Évidemment, on pourrait se contenter de voir dans Nadine une blague de mon oncle qui s'étire un peu trop longtemps. Première interprétation. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment le personnage en vient à figurer l'impossibilité de la vie intellectuelle au féminin. Nadine est celle qui ne sait pas penser, ou pire, celle qui pense mal. Elle se retrouve du côté des tricoteuses et des fédéralistes. Bref, c'est une sorte de Yvette qui se serait perdue à liberté. Nadine est celle qu'on fourre dans tous les sens du terme. Elle n'arrive pas à prendre ses distances avec les discours dominants. Elle se fait avoir par les beaux parleurs au pouvoir. Elle constitue un fourre-tout qui accueille toutes les mauvaises idées, les mauvaises œuvres. On pourrait évidemment soutenir que les gars de liberté ne se prenaient pas au sérieux. Tout le monde est en mesure d'apprécier un peu de cabotinage. Mais essayons de voir ce que ça donne si on décide de prendre Nadine au sérieux. C'est Bello lui-même qui nous le suggère. Je le cite, « Les énoncés et même les mots qui nous parviennent ne sont pas inertes, neutres, sans attache. Au contraire, ces énoncés sont déjà des fragments de discours existants. » Les gars de liberté nous disent qu'avec Nadine, il n'y a rien là. Mais si au contraire, il y avait quelque chose là? Cette construction discursive entretiendrait-elle un quelconque rapport avec la façon dont on pense la place des femmes au sein de la revue et du champ de la culture en général? Cette Nadine peut-elle éclairer l'organisation du travail à liberté et la conception de l'intellectuel qui s'y développe à l'époque? Suzanne Robert, qui a été admise au comité éditorial en même temps que l'historienne Lise Noël et que la linguiste Danielle Trudeau en 1984, ce sont d'ailleurs les premières femmes depuis Michel Lalonde à pénétrer le Cénacle. Suzanne Robert va donc écrire en 1999 sur son expérience à la revue. Selon elle, la vie intellectuelle telle qu'elle se pratique au sein du comité de rédaction en vient à décourager complètement les femmes qui s'y trouvent au point de les condamner au silence et à l'immobilité. Je la cite. J'ai appris qu'un intellectuel est quelqu'un qui se prononce sur tout, absolument tout, parce qu'il a une opinion sur tout, absolument tout, et qu'il se montre incapable de dire « je ne sais pas » ou « je ne sais que penser de ceci ou de cela », sa devise tenant plutôt dans ce titre de film, un film humoristique français, je crois, « Je ne sais rien, mais je dirai tout ». Chose certaine, l'esprit du doute ne hantait pas liberté. Peu à peu, mes consoeurs abandonnèrent la course, l'une au bout de quelques mois, l'autre après presque 3 ans. Commença alors ce qui fut pour moi une sorte de longue période de noirceur totale où je glissais dans une léthargie et une indifférence suprême, sans pouvoir ni rester, ni partir, ni bouger, ni demeurer vraiment immobile. Il faut que Liberté survive à la disparition de ces héros qui n'ont jamais été mes maîtres, qui n'ont jamais marqué mon existence et qui ne m'ont jamais atteinte que par les mois que me causait leur faiblesse. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas l'aspect affectif de l'expérience. Ce que Robert raconte ne se limite pas à une incompatibilité sur le plan des personnalités. Il s'agit d'une incompatibilité sur le plan du langage et de la pensée. Les femmes ne sont pas exclues officiellement de la revue. Au contraire, la porte est ouverte, comme dit Bello. On s'efforce de les y intégrer, mais elles ne peuvent correspondre à une certaine pratique du discours, ou en fait, elles refusent une certaine pratique du discours. Ce qui est finalement bien pire, bien plus tragique, puisque c'est la définition même de l'intellectuel qui y est véhiculée, qui accomplirait le sale travail d'exclusion, à l'insu même de ceux-là qui l'incarnent. Suzanne Robert est restée pourtant après avoir voulu démissionner plusieurs fois, expliquant que la présence de certains de ses collègues l'aura gardée à liberté. À la mort de Bello, elle l'identifiera comme un de ceux-là en faisant son maître à penser. C'est que, justement, Bello nous donne les moyens pour penser les trous et les non-dits de sa propre écriture. Il nous donne les moyens pour démonter le légat utilisé pour désigner l'équipe de Liberté, mais peut-être aussi le légat des institutions sociales de manière plus générale. En effet, Bello s'intéresse aux rapports sociaux tels qu'ils s'inscrivent dans les discours, même si les rapports sociaux de sexe restent le plus souvent dans son angle mort. Son texte sur Amos Oz en constitue un des plus beaux exemples. Bello nous rappelle que l'écrivain ou l'intellectuel qui tente de représenter la collectivité ou un groupe social dominé en particulier ne fait le plus souvent que réaffirmer constamment dans son écriture les signes de son pouvoir dans la sphère culturelle et dans la société plus généralement. Quand les gars de Liberté ajoutent le nom de Nadine à côté du leur, c'est exactement ce qu'ils font. Rappeler la différence entre une pensée molle et corrompue attribuée aux femmes et la leur, afficher la domination de leur groupe sur un autre dont on reproduit la voix fictive pour mieux la disqualifier. Bello écrit « L'égalité doit commencer dans le langage et la morale dans la grammaire. » Cette affirmation semble encore dérangeante, quasi révolutionnaire aujourd'hui. Prenons la chose sous un autre angle. J'ai annoncé plus tôt qu'on pouvait reconnaître chez Bello les bases d'une pratique intellectuelle féministe. Toujours dans le texte sur Amos Oz, Bello interroge la position de l'écrivain par rapport au groupe auquel il souhaite donner la parole et avec lequel il se sent solidaire. Comment inscrire cette solidarité dans la langue même du texte sans qu'elle ne signifie une adhésion totale et aveugle à un groupe donné? Comment inscrire cette solidarité dans le texte sans que celui-ci ne devienne l'instrument d'une cause ou d'un message? Ceci concerne précisément l'engagement du texte et de son auteur dans le monde. La stratégie d'Amos Oz, et qui permet aussi de décrire en fait celle de Bello, est d'inscrire dans le texte une tension entre le « je » et le « nous », relation dialectique qui est toujours en train de se faire, jamais achevée. Bello parle d'une ironie de participation ou d'une distance solidaire, manière de dire que le « je » de la narration s'inclut dans le « nous » tout en s'en extrayant ici et là pour briser sa singularité. En fait, il y aurait dans le texte un « nous » qui serait toujours au bord de se briser et de laisser entendre tous les « je » qui animent la narration. L'écrivain, celui qui parle, n'est jamais en dehors de la communauté. Il parle d'elle au milieu d'elle et rend la dimension conflictuelle de ses voix qui parlent toutes ensemble, autour de lui et en lui. Disons que je suis une intellectuelle et une féministe. Qu'est-ce que cela pourrait bien vouloir dire? Je ne suis pas le « nous » des femmes, lequel est aussi peu homogène et lisse que le « nous » du peuple. Pourtant, le « nous » des femmes peut atteindre l'universel autant que le « nous » des paysans du kibboutz. Bello écrit, et je le cite, « Le groupe devient sujet et objet à la fois. Il se dit à lui-même ce qu'il se voit être, globalement et en chacun de ses membres. Si, comme intellectuel, je souhaite être attentive à la parole d'un groupe donné, disons le groupe femmes, duquel je cherche à être solidaire, cela ne signifie pas que je parle en leur nom ou à leur place. Cela signifierait plutôt que je cherche à faire entendre avec tendresse, comme le dit Bello, tous les jeux de cette communauté au milieu de laquelle je me trouve, dans une position critique, dans la lucidité partagée avec ses autres membres. C'est cette solidarité-là, d'ailleurs, qui m'a donné envie de faire entendre aujourd'hui la voix de Nadine et peut-être de toutes celles qu'elle est supposée caricaturer. Ce type de solidarité n'exclut pas la possibilité de trahir le groupe ou du moins de choisir l'écart ou la marginalité en son sein. La figure de l'intellectuel que Bello transmet est celle du réécriveur, qui récupère les formes et les discours hérités et ne craint pas d'y être infidèle. En cela, elle n'est pas tellement éloignée de l'intellectuel Judas que proposait Catherine Mavrikakis citée un peu plus tôt. C'est bien de cette façon que j'ai cherché à me positionner aujourd'hui, en tant qu'alliée, mais aussi en tant que prêtresse. Merci.